dire que leur comportement n'est pas acceptable et qu'il mène directement à des sanctions. Il ne peut pas en être autrement.
Le Premier ministre français Édouard Philippe, des propos recueillis par Anthony Lattier. Et puis la disparition du comédien et réalisateur britannique Terry Jones.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous écoutez maintenant L'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. En ce moment et jusqu'à dimanche a lieu le festival Premier Plan, le festival des premiers films européens. Et pour l'occasion, nous sortons de nos studios. Nous sommes, peut-être vous l'entendez un petit peu, en direct du Centre des Congrès. Enfin, pas vraiment en direct, mais vraiment au cœur du Centre des Congrès. La particularité de l'émission ce soir, c'est aussi qu'elle est un crossover, c'est-à-dire un croisement, une fusion, un mélange avec l'émission Entre les Pages. Entre les Pages, c'est l'émission qui vous parle de littérature et des livres en Anjou. Vous l'entendez un mercredi sur deux à 17h sur Radio G. Ensemble, aujourd'hui, nous avons imaginé une émission pour vous parler de cinéma, bien sûr, mais sous un axe littéraire. Pour cela, nous avons choisi de parler d'une étape clé, mais souvent peu visible, de la création d'un film, l'écriture du scénario. Aujourd'hui, vous entendrez Louise Groux, Pablo Durie et Antoine Dujeu, Anaïs Volpé et Rachel Lang. Toutes et tous écrivent ou réalisent des films et on vous les présentera plus en détail. Avant de débuter cette émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts et infos sur le site de Radio G à la page de L'Oreille Curieuse. Et demain, on réalisera une émission commune avec Radio Campus Angers à laquelle vous pouvez assister. Il suffit de venir au Centre des Congrès entre 15 et 16 heures. Voici donc pour le programme, et ce soir je suis accompagnée de Luc. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Habituellement on t'entend dans Entre les Pages, émission que tu as créée cette année à l'antenne.
Oui.
Et pour cette émission tu es devenu le reporter de Radio G, tu as traîné un petit peu partout dans le festival. On va écouter ça tout à l'heure. Et il y a aussi Albert, tonton Albert, bonsoir.
Bonsoir Anne-Li.
Et tu es une voix qu'on entend aussi très souvent dans On est là pour voir le défilé.
Il paraît,
c'est vrai, c'est une information réelle. Et c'est aussi une émission le mercredi à 17h. Deux super émissions. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Luc, tu nous emmènes dans ton odyssée littéraire pour commencer au cœur du festival ?
Eh bien oui, comme Entre les Pages, on se préoccupe du monde du livre. Je parcours le festival à la recherche d'auteurs de scénarios. Et il faut le dire, c'est une des originalités de Premier Plan, c'est d'avoir créé un espace pour la lecture de scénarios, de courts et de longs métrages. Cette initiative a pu voir le jour grâce à l'ADAMI et ce n'est vraiment pas rien de le dire.
Luc, tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'ADAMI ?
C'est l'administration des auteurs et musiciens interprètes.
C'est en fait, technique.
Oui, c'est très technique. Mais plus que technique, c'est une des spécificités françaises que l'on peut rapprocher de tout ce qui concerne l'exception culturelle dont on a beaucoup parlé lors de la négociation des traités internationaux de libre-échange dans le cadre de l'OMC. Ça, c'était une bagarre il y a quelques années. En France, nous avons une culture de la solidarité. Et comme pour ce qui est des retraites, c'est d'actualité là vraiment, ou de la protection sociale, le champ artistique s'est doté d'organismes spécifiques. On peut parler du CNC, de la SACD ou même de la SACEM par exemple. Pour faire simple, l'ADAMI, c'est une société de services qui administre les droits des artistes-interprètes grâce aux fonds prélevés sur l'exploitation des œuvres artistiques.
Et à Premier Plan, comment s'implique l'ADAMI ?
En sélectionnant des scénarios de courts-métrages soumis au vote du public, le vainqueur, c'est pas rien non plus, le vainqueur est récompensé par la réalisation de son film par France 2.
Et comment ça se passe au festival ?
Bah, c'est simple, hein. Ce sont des séances de lecture qui sont organisées. Elles sont faites par des comédiens devant un public qui vote pour le meilleur scénario. Pour ces lectures, c'est Rachel Lang, comédienne et réalisatrice, qui les a dirigées. Je te propose de l'écouter maintenant.
Je suis avec Rachel Lang, qui a eu comme mission, comme attribution par la DAMI, d'accompagner les lectures de scénarios.
Oui, tout à fait. Il y a des lectures de scénarios pendant le festival Premier Plan d'Angers, en collaboration avec la DAMI, chaque année. Et il y a deux types d'exercices. Il y en a un qui consiste à lire des scénarios qui n'ont pas été réalisés, dans le cadre, pour avoir un prix ensuite qui permettra de faire le scénario en question. Et un autre exercice, celui qu'on vient de faire là à l'instant, qui est de l'écrit à l'écran, donc de lire un scénario juste avant la projection du film qui a déjà été réalisé.
Vous êtes déjà et réalisatrice et scénariste.
Oui, tout à fait.
Donc on vous confie un travail très particulier, c'est de travailler à la fois sur le scénario d'autres personnes, presque. Alors là, je vais faire référence à la première lecture, c'est-à-dire les lectures de scénarios de court-métrage. Presque à les scénariser.
À les scénariser, non, ils sont déjà scénarisés. À les mettre en scène.
À les mettre en scène, pardon, excusez-moi du terme.
En audio, quoi.
Ah, voilà. Mmh. Comment vous appréhendez ce travail-là? Parce que c'est quand même un travail de réappropriation. Enfin,
Alors, je ne dirais pas que c'est de la réappropriation, c'est plus de la mise au service d'un auteur, d'un texte. Voilà. Après, moi, comme je participe à la sélection de ces scénarios, j'ai aussi une affinité, ou plus ou moins, enfin, en tout cas, avec les textes, puisqu'on nous en présente 10 et on en sélectionne 3 pour cet exercice-là. Donc sur ces 3 scénarios, c'est 3 scénarios que j'aimais beaucoup et où j'avais l'impression de comprendre un peu ce que voulait dire le scénariste et où je pensais pouvoir guider, enfin être à la bonne place pour guider les 4 comédiens qui allaient dire ces scénarios. Mais oui, je pense que c'est vraiment pour le coup, moi je m'efface complètement et les comédiens amènent aussi beaucoup de choses parce qu'eux ont aussi un avis de réception par rapport à leur lecture de scénarios. Une vision de la chose, et c'est vrai que quand un scénario est bien écrit, il y a beaucoup de choses. Enfin, tout y est, en fait. C'est un outil qui doit être vraiment au service de toute l'équipe d'un tournage, et du coup, il faut que tout soit très précis, très carré.
Mais il y a aussi un enjeu derrière, c'est-à-dire que cette lecture, alors peut-être à part celle de cet après-midi, où le film est déjà réalisé, donc on est plutôt là dans un travail de, pas de mise en abîme, mais de compréhension de la multiplicité des complexités entre, à un moment donné, une idée de scénario, les images, ce que se fabrique l'écoutant du scénario et ce que se fabrique le regardant du film. Mais sur les autres, dans les autres cas, ces films ces scénarios sont amenés potentiellement à être réalisés. Il faut donc effectivement se donner à fond dans la mise en avant, en rythme, pour qu'effectivement des producteurs potentiels se disent finalement, dans ce scénario que moi j'avais pu lire à un moment donné, il y a plus que ce que j'avais imaginé.
Ouais. Tout à fait. Et ce qui était assez heureux à l'issue de cette lecture, justement, c'est que par exemple, la personne de France 2 qui s'occupe de l'achat et qui remet le prix, bon, qui n'a plus rien à dire maintenant, puisque c'est un prix du public qui va dire lequel des 3 va avoir le prix, est venu nous voir en disant « Waouh, j'ai redécouvert ces scénarios ». Alors, il a participé à la sélection et il les aimait, mais il les a encore plus aimés. Donc, c'est assez agréable comme retour parce que, du coup, il y a 4 comédiens qui se sont donnés à fond, qui ont tout donné pendant les 30 minutes de lecture de scénario, enfin, de chaque scénario, et qui, du coup, ont retour assez positif.
C'est une mission qui vous a été confiée par la DAMI.
Oui.
Comment vous avez été contacté par la DAMI?
Alors en fait, c'est le festival Premier Plan d'Angers qui m'a contacté parce que moi j'ai une relation de très long terme avec le festival. Je suis venue avec tous mes courts-métrages, je suis venue avec mon premier long. Il y a une année où j'ai réalisé la bande-annonce, j'ai fait les ateliers d'Angers aussi, la résidence avec Jeanne Moreau, c'était en 2011 ou 2012, je ne sais plus, mais bref. Donc j'ai vraiment fait tout ce qui était possible de faire à Angers depuis le 2011, je suis là tous les ans. Donc cette année, comme je n'avais pas d'excuses pour venir, festival m'a dit « Ah, bah voilà, une mission ». Voilà, donc c'est comme ça que c'est passé.
Et pour terminer cet entretien, on a découvert cet après-midi dans la salle que des gens, finalement, ne connaissent pas cette entité-là, ce à quoi elle sert. Donc, finalement, c'est quoi la Dhammi ?
Alors, la Dhammi, moi, ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est que c'est vraiment un pool de jeunes talents qui sont sélectionnés par des jeunes réalisateurs pour jouer dans des films. Donc tout le monde peut postuler, donc tout le monde peut s'inscrire, tous les jeunes comédiens peuvent s'inscrire, mais sur la, je sais pas, il y en a peut-être 500, 800, je sais pas combien s'inscrivent, il y en a 15 qui sont sélectionnés chaque année pour tourner dans des films et qui après passent un an à être, entre guillemets, parrainés par cette association, enfin par cette organisation de la Dhammi pour être dans des festivals, pour faire des rencontres, pour assister, enfin pour faire des lectures comme aujourd'hui. Et c'est un peu un petit coup de pouce pendant un an pour tirer des jeunes comédiens talentueux vers des milieux qui ne peuvent pas approcher forcément tout seuls vu leur jeunesse.
Eh bien, écoutez, je vais vous remercier, Rachel Englund, d'avoir accepté cette interview. Je vous souhaite un bon retour.
Ben, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'est un premier éclairage de ce qui se passe sur Premier Plan. Mais maintenant, en fait, je vais te proposer de rentrer dans le vif du sujet. Avant d'écouter les interviews pour les courts-métrages, parce qu'il y a deux sections, court et long-métrage, je suis allé à la rencontre d'Anaïs Volpé après la lecture de son scénario « Entre les vagues ». Tiens, on n'est pas très très loin de « Entre les pages », scénario qui a été lu par Natacha Régnier. Une très belle lecture, une lecture presque blanche qui a laissé toute la place à ce que l'on pourrait appeler l'écoutant.
Et quel est le parcours d'Anaïs Volpé ?
Anaïs Volpé, elle a déjà une bonne pratique de l'écriture de scénarios. Elle a terminé ses études à la FEMIS, notre école française de cinéma, et elle a plusieurs courts-métrages à son actif. Entre les vagues, cela raconte l'histoire de deux comédiennes qui sont sélectionnées pour jouer dans une pièce de théâtre. On va découvrir que la titulaire est gravement malade et que c'est sa doublure qui va prendre sa place. C'est une histoire qui touche beaucoup à la vie d'Anaïs Volpé. Je vous propose maintenant de l'écouter.
Ça suscite quelles émotions d'entendre tout d'un coup son texte prendre vie ?
Ça m'a énormément émue. C'était vraiment un premier exercice pour moi. C'est vraiment la première fois de ma vie que je suis amenée à présenter un film en lecture. Donc c'est vrai que c'était un exercice que j'appréhendais un peu. Mais au final, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de le travailler. Et en plus de le travailler avec une seule comédienne, c'était assez un challenge, puisqu'il fallait qu'on puisse se repérer vraiment de qui parle, puisqu'elle faisait tous les personnages pendant plus d'une heure et demie. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété avec Natacha Régnier, au moins 4 fois avant le jour J, aujourd'hui. Et j'ai trouvé l'exercice vraiment intéressant d'avoir finalement les réactions des gens dans la salle alors que le film n'est pas encore tourné. Il y a quelque chose de très enthousiasmant, en fait.
D'où vient cette histoire ?
Cette histoire est fortement inspirée de plusieurs choses que j'ai pu vivre. D'une part, moi je suis arrivée à 17 ans à Paris, je suis originaire de Toulouse. Et j'ai commencé à faire du théâtre, à lier des amitiés très 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 fortes en fait, de gens qui vivaient aussi loin de leur famille, d'autres acteurs. Déjà d'une part, je dirais que ce film c'est un peu un hommage à cette espèce de jeunesse que j'ai vécue entre mes 17 ans jusqu'à mes 30 ans. Aujourd'hui j'ai 31 ans, donc j'avais envie vraiment de parler de tout ce que j'avais pu traverser d'assez solide. Dans le théâtre, dans l'envie de créer, dans l'envie de s'en sortir dans l'art, et à la fois malheureusement inspiré aussi du fait que j'ai perdu une amie comédienne pour qui j'avais écrit mon premier film, et quand mon premier film est sorti, malheureusement cette comédienne a été frappée par une maladie foudroyante, et c'était la première fois après 10 années de galère un petit peu dans ce milieu que j'arrivais enfin à finir quelque chose, être contente de quelque chose que j'avais pu créer. Et malheureusement, un des membres de cette équipe est parti. Il a fallu à la fois finir le film tout en accompagnant cette actrice dans la maladie et vers l'irrémédiable. Et j'ai trouvé ça à la fois très fort, très triste, très beau, très mélangé. Et j'ai voulu parler de cette grande émotion. Donc, dans un film où j'ai complètement désaxé l'histoire en fiction avec d'autres personnes, une autre problématique, voilà.
L'écriture a pris combien de temps ?
L'écriture en tant
avant que... d'arriver à ce qu'on a entendu cet après-midi.
L'écriture a pris 2 ans. 2 ans avec, bien sûr, c'est jamais 2 ans tous les jours. Hein. C'est 2 ans avec parfois des pauses de 6 mois où, par exemple, je n'écrivais pas parce que je pense qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être infusées. Et parfois, on est content d'une version. Et puis 6 mois plus tard, on se dit, après l'avoir présenté à certains professionnels et après avoir eu quelques retours de personnes avec des retours constructifs, on se dit ah non, là il y a encore ça et ça qui ne va pas, donc on se met à réécrire et on se rend compte qu'on reprend son scénario 6 mois plus tard, après être persuadé quand même qu'on était arrivé à la VDF 6 mois plus tôt. Donc voilà, je dirais que c'est 2 ans, mais il y a eu parfois des grosses pauses, en fait, dans ces 2 ans, pardon. Ces 2 ans avec parfois des grandes pauses, quoi.
Il y a quelque chose dans ce scénario, moi, ce que j'ai entendu, de très onirique. Il y a des envolées comme ça, enfin, des dérapages, des échappées. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ou du moins, qui vous a inspiré dans ces... Moi, j'ai pensé, je vais vous le dire tout de suite, ouais. Quand j'ai eu ces fûts de bière qui commencent à produire des coquillettes, mm-hmm. ou des pâtes, j'ai pensé à Boris Vian.
D'accord.
J'ai été presque conforté dans ce sentiment-là avec l'évolution de la maladie du personnage d'Alma, où je me suis retrouvé. Enfin, il y avait quelque chose qui me rapprochait de Chloé, en fait, dans l'écume des jours. D'accord. Alors, je sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai vécu.
Mais c'est super intéressant, effectivement. Moi, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas bien l'œuvre générale de Boris Vian. Je sais très bien, voilà, que c'est quelqu'un de très créatif. Voilà, je connais très peu, mais on m'en parle assez souvent, effectivement. C'est marrant comme parfois on peut faire des choses qui font penser à d'autres, alors que souvent parfois on ne s'est pas inspiré de d'autres. Moi, c'est vrai que je m'inspire énormément de ce que j'ai vécu et je crée à partir de ce que j'ai vécu ma propre vision de comment j'ai envie de raconter les choses. Donc très souvent on me demande quelles sont mes sources d'inspiration et j'ai tendance à dire que mes sources d'inspiration, forcément il y en a, mais elles sont absolument inconscientes, quoi. Ça va être des films que j'ai vus quand j'avais 10 ans ou le film que j'ai vu il y a 2 jours, et voilà, tout ça s'emmagasine. Ça va être aussi des musiques, des clips, des choses que j'ai vues dans des musées, des choses qu'on m'a racontées. Voilà, tout ça s'emmagasine d'une manière assez inconsciente et je suis sûre qu'il y a forcément des inspirations inconscientes, mais je ne me suis pas inspirée d'une œuvre pour en refaire une autre, quoi. En gros, c'est ça que je dis, et je m'inspire vraiment de mon ressenti et de comment j'ai envie de le retranscrire. Et là, en l'occurrence, j'avais très envie de faire justement des envolées un peu oniriques pour laisser de la place au rêve, puisque c'est quand même un film sur le rêve de réussir à vivre de l'art. Donc c'est un sacré rêve, un sacré challenge, et je voulais vraiment pousser ce rêve au maximum et que ce soit vraiment des moments de souffle aussi dans le film, puisque je ne voulais pas faire un film que sur la maladie, mais un film sur la force de vouloir s'en sortir, la force de vouloir continuer à rêver. Et puis de toute façon, je pense beaucoup qu'on est d'une certaine manière assez onirique. Quand on accompagne quelqu'un vers la mort, tout le monde ment un petit peu, tout le monde joue un petit peu. Quand on entre dans la pièce, on fait semblant que la personne va s'en sortir. La personne qui est malade fait semblant aussi qu'elle va s'en sortir. Enfin, on est tous un petit peu dans une forme de mensonge ultra créatif, en fait, tous ensemble. Et je voulais pousser cette chose au maximum. Et puis, parce que moi, c'est comme ça aussi que j'ai accompagné mon ami dans la maladie, en lui parlant d'un rôle que je lui écrivais pour le futur film, et je pense qu'elle et moi savions très bien que ce film ne se ferait pas et qu'elle ne jouerait pas dedans, mais on avait cette espèce de pacte d'être persuadé que ça arrivait et on allait ensemble vers ce rêve, et je trouvais ça très fort, très beau et peut-être plus poussé que d'habitude par rapport aux gens qui accompagnent quelqu'un vers la mort, parce que là on était liés par la création ensemble. Je trouvais ça beau, donc j'ai voulu faire un film sur ça. Voilà.
Quand on écrit un scénario, je pense qu'on a les images de la réalisation dans la tête. Mm-hmm. En tout cas, on en fabrique.
Bien sûr.
Qui va réaliser ce film ?
C'est moi.
Donc, là, vous êtes devant un challenge. C'est à la fois de regrouper les moyens de production, mais de réussir à reproduire cet onirisme,
ouais.
Qui est quand même quelque chose de costaud entre le théâtre, New York, puisque New York est fortement présent, les balades à Coney Island, enfin bon, il y a vraiment un ensemble. C'est les lieux sur lesquels vous allez tourner ce film ?
Oui, c'est ce qui est prévu en tout cas. Bien sûr, il y a toujours des petits ajustements jusqu'au dernier jour de tournage en fonction du budget, en fonction des possibilités, mais je me fais confiance sur le fait que s'il faut ajuster parce qu'à un moment donné, il y a un lieu qui n'est pas possible, je prendrai le temps. Je veux dire, quand on écrit pendant 2 ans, on a entre guillemets plus peur, je pense, du réajustement, parce qu'on sait très bien que oui, peut-être on peut pas, je dis n'importe quoi exprès, faire cette scène par exemple dans la mer. Bon, bah, on va trouver une autre solution et peut-être que cette autre solution sera encore mieux finalement que la mer si on n'a pas la mer en décor. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
En un sens, je ne m'inquiète pas vraiment pour ça parce que je sais que finalement, le karma du film, c'est comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on crée tout le temps. Donc finalement, même si demain, il n'y avait pas un lieu possible, ce qui peut totalement arriver, je réécrirai, on trouvera une solution pour que ce soit... le message soit toujours le même et que voilà, le principal c'est que le karma même du film ne change pas, ça c'est sûr et certain. Effectivement, c'est un challenge de le réaliser, mais je pense que je suis tellement excitée par ce projet que voilà, enfin c'est comme ça que je l'imagine, donc je vais travailler pour qu'il soit comme je l'imagine, même si ça fait peur évidemment, mais l'excitation et l'envie de le faire sont évidemment beaucoup plus fortes.
Une dernière question. C'est Natacha Régnier qui a fait cette lecture. Est-ce que c'est Natacha Régnier qui va jouer dans le film ?
En fait, Natacha Régnier, c'est vraiment un exercice qu'on a fait ensemble pour la lecture, puisque les deux comédiennes ont 27 ans et que Natacha Régnier a un petit peu plus maintenant. Donc, les deux comédiennes principales sont déjà choisies. Et donc, j'ai vraiment voulu, comme j'ai validé mes comédiennes, quand j'ai appris la sélection ici à Angers, j'étais en plein casting. Donc, il était beaucoup trop tôt pour leur donner les noms des deux comédiennes qui pourraient lire, puisque moi-même, je ne savais pas encore qui j'allais valider. Donc, j'ai vu cet exercice de lecture comme une opportunité de le travailler autrement. Donc, au lieu de stresser pour savoir qui seraient les deux actrices finales du film, parce que si ça se trouve, j'aurais pu les valider qu'en février, alors que la lecture avait lieu en janvier, j'ai décidé de prendre une comédienne qui n'a rien à voir avec l'âge des actrices du film et de faire vraiment l'exercice de lecture avec cette personne. Et j'ai pensé de suite à Natacha Régnier en clin d'œil à La vie rêvée des anges. Je trouvais ça très intéressant qu'elle le fasse. Puis j'aime beaucoup cette actrice, j'aime beaucoup ses choix de films. Ce que vous avez vu là, c'est d'une part la lecture pour Angers, et d'autre part, vous verrez un film avec Margot et Alma, qui sont deux autres actrices. Donc, voilà.
Nous étions avec Anaïs Volpé pour parler du scénario de son film, Entre les vagues. C'est vraiment important d'insister là-dessus, c'est une histoire bouleversante et Natacha Régnier, dans sa lecture, a réussi à nous en faire vivre toutes les émotions, y compris même dans les passages qui se déroulaient à New York.
Albert, tu avais des réactions ?
Alors, sur l'exercice de la lecture de scénario, ce qui est important de préciser, c'est que la qualité de la perception qu'on peut avoir en tant qu'auditeur de ce genre d'exercice, ça tient beaucoup à la performance du lecteur et en l'occurrence de la comédienne. Moi, j'ai le souvenir, pour avoir assisté à des lectures de scénarios ici à premier plan, que parfois... on partait sur quelque chose qui était mais vraiment tellement extraordinaire qu'on avait les images devant les yeux, on voyait le film se dérouler alors qu'il n'était pas fait. Ça, c'est formidable. À tel point qu'il m'est même arrivé de préférer la lecture de scénario que le film lui-même que j'ai vu a posteriori. Voilà. Donc et parfois à l'inverse, on se dit c'est peut-être pas... ça reste perfectible. Voilà, c'est un petit peu une sensation que j'ai eue à différentes reprises en écoutant les lectures de scénario.
Ouais, c'est vrai que ces lectures, c'est vraiment une autre façon en fait, de découvrir les films, une étape hyper importante. Mmh. Mmh. On va poursuivre cette émission de l'oreille curieuse croisée avec Entre les pages, consacrée à Premier Plan. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sûr sur Radio G. On va retrouver des nouvelles rencontres, mais d'abord, on va écouter un morceau de musique. C'est The Radio Department, oui, c'est Pulling Our Weight. Toujours à Premier Plan, et pour parler des scénarii, tu as aussi interviewé des auteurs et autrices.
Oui, oui, parce que ça, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était la lecture relative donc au long métrage. Maintenant, on va passer au cours. Donc là, la lecture était faite par 4 comédiens issus de la sélection Talent Adami Cannes. Donc encore une fois, l'Adami qui vient accompagner les jeunes pratiques artistiques. Les comédiens s'appelaient Noémie Chichportich, Yamé Couture, Samir Benadj et Jonathan Turnbull. C'est eux qui s'y sont collés et cela a été un très grand moment. Ils étaient vraiment magnifiques dans l'énergie, la vitalité et l'implication.
Et qui as-tu interviewé ?
Eh bien, j'ai commencé par Pablo Dury, qui était accompagné par Antoine Dujeu, le co-scénariste de Le Soleil d'Or. Pablo Dury, il a fait des études de cinéma à Paris 1. C'est là qu'il a rencontré Antoine Dujeu.
Et alors, ça raconte quoi, Le Soleil d'Or ? Comme dormir, hein ?
Comme dormir. C'est une histoire très onirique. Cela commence par deux personnages qui vivent dans le jeu Second Life et qui vont se rencontrer dans la vie réelle. Mais résumer le scénario de la sorte, c'est vraiment trop court. Il y a beaucoup plus dans le scénario. Il y a quelques scènes très de rêve que moi, je serais curieux de voir à l'écran si le film se réalise. Il y a un sanglier, on retourne presque au Moyen-Âge. Donc moi, je serais vraiment curieux de voir comment, quelle forme ça va prendre à l'écran.
On les écoute ?
Allez, on y va.
On sort de cette lecture. Ça fait quoi d'entendre son propre texte lu ?
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que pour nous, c'est la première fois qu'on l'entendait. Ça fait presque un an qu'on travaille dessus et c'est la première fois qu'on a même presque des retours. C'est intéressant et en même temps, c'est assez perturbant parce que l'exercice veut qu'on n'ait aucun contact avec les comédiens et la metteuse en scène qui s'occupait de la lecture. Et donc, c'est vrai qu'à la fois, on découvre le texte et on le découvre avec des intentions qui appartiennent finalement à la cinéaste Rachel Long qui s'est occupée de la lecture. Et donc, c'est assez... C'est intéressant, perturbant.
Le titre du scénario,
Le Soleil d'Or.
Si vous deviez le résumer en quelques mots.
C'est une histoire d'amour, c'est la rencontre de deux amants qui s'aiment virtuellement sur le jeu vidéo Second Life. Donc le film raconte leur première rencontre physique.
Il y a plusieurs niveaux quand même d'histoire, mm-hmm. puisqu'il y a l'histoire sur Second Life, l'histoire dans la vraie vie, le passé. Des personnages, donc on est sur des strates d'histoire. Vous allez être le réalisateur de ce film. Est-ce que vous n'êtes pas finalement parasité par cette lecture ? Est-ce qu'elle n'a pas troublé les images que vous aviez commencé de fabriquer en rédigeant ce scénario ?
Pas tellement, non. J'ai trouvé que justement la qualité d'incarnation des comédiens et la manière dont notamment le texte, les didascalies ont été lues, et justement là où les images prennent vie souvent, je trouvais que c'était très bien incarné. J'ai trouvé que les images prenaient vraiment corps. C'est à ce niveau-là que je suis même le plus satisfait de la lecture. Je sens que le monde qu'on a créé est advenu, en tout cas dans la lecture.
Et pour vous, Antoine ?
Oui, je suis d'accord avec Lolo, il y a aussi quelque chose de très vivant. Dans les didascalies, c'était aussi ce qu'on avait mis en place.
Et tout ce, en fait, ce millefeuille, on va dire ce millefeuille, en tout cas ces strates de temporalité, de récit, je trouve que la mise en scène était sobre, mais arrivait à rendre compte des différentes strates de manière assez simple et assez claire. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Après, c'est un scénario que je connais très bien. Donc,
et puis, je trouvais qu'il réussissait dans son impression à lui, que à l'intérieur du texte, il y a aussi la description. Et en parallèle de la description, parfois il y a des apartés qui, du coup, en fait, dans le texte n'apparaissent pas forcément évidentes à la lecture, mais en tout cas, dans la manière dont nous, on l'a écrit, pour nous, c'était évident. Cela, et du coup, ça permettait, je trouve, vraiment de se rendre compte de l'espace et des personnages au sein de l'espace et de comment eux réagissent entre eux et comment eux réagissent à l'espace aussi.
Vous êtes co-scénariste, ça veut dire que vous avez écrit à deux. Comment on écrit à deux ?
Alors, je pense que. Tout le monde a sa technique. Enfin, c'est toujours assez compliqué. Nous, la manière dont on procède, en fait, on dit on écrit à deux. En vérité, c'est Antoine qui écrit physiquement. Le texte, c'est lui qui l'a écrit. Maintenant, on travaille beaucoup par réunion. On discute, en fait. On parle beaucoup du film. Et après, Antoine, disons, passe à l'écriture d'après ce qu'on s'est dit et on marche par retour. Mais l'écriture en tant que telle, c'est Antoine qui l'a faite.
C'est un texte, il est écrit, et moi, en écoutant le texte, j'ai commencé à me faire le film dans ma tête. Et puis, là où ça a chopé, c'est quand il y a ce flashback, quand on va dans le passé, je me suis dit, mais bon sang, quels moyens de production ils vont avoir à mettre en œuvre pour tenir la cohérence du propos.
Votre question porte sur comment on va le faire advenir cinématographiquement parlant, c'est-à-dire
oui.
Parce que vous avez été impressionné par, disons, vous vous dites ça va coûter cher, quoi.
Bah, grosso modo, oui.
En fait, moi, je sais que je suis attaché à, enfin, moi, je suis attaché à l'idée du cinéma fantastique, à ce que un scénario, l'idée vraiment de ce scénario, c'était vraiment de partir du réel et puis progressivement, par petites touches, s'en écarter, d'abord par le songe et puis presque plus concrètement. Et c'est vrai que le fantastique implique, disons, des moyens. Dans mon ambition, il y a une esthétique qui va avec, une esthétique qui induit une forme d'artificialité des effets, qui induit aussi, je dirais pas le manque de moyens, mais il y a quelque chose qui est considéré à chaque fois que j'écris quelque chose, un effet, un artifice. Je le considère même dans sa mise en œuvre de production. Et c'est difficile pour moi d'écrire quelque chose dont je n'ai aucune idée de, enfin quand j'ai aucune idée de sa réalisation. Et donc que ce soit par exemple, peut-être que vous parlez du sanglier qui parle, c'est quelque chose que j'ai déjà, genre pour moi ça parle, ça passe vraiment par un effet de cinéma qui est très simple, c'est-à-dire de faire parler un sanglier juste en off, sans lui faire agiter la bouche, ce genre d'artifice m'amuse. C'est des moments où en fait le cinéma est transparent. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment très concrètement de l'ordre du cinéma, mais qui m'intéresse. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mes précédents films, où il y avait des oiseaux qui parlaient, par exemple, où on les entendait piailler, ils étaient simplement sous-titrés. Tout ça, c'est important. Et c'est pour ça que, même si je pense que mes producteurs auraient un discours différent du mien, mais je pense qu'il est tout à fait réalisable dans un budget totalement raisonnable. Tout est question de mise en scène, en fait. C'est pas ça, quoi.
Alors, la lecture a duré grosso modo 40 minutes à peu près. Hein. Ouais. Ce film va durer combien de temps ?
Alors, moi, dans l'esprit, j'aimerais qu'il dure 30 minutes maximum. Pour des questions un peu, disons, pragmatiques de production, j'ai réalisé déjà deux films qui étaient des films un peu, disons, hors format, parce que c'était des moyens-métrages qui sont difficiles à diffuser, difficiles à programmer. Et donc... Là, c'est vrai que l'ambition, c'est de faire un film de 30 minutes. Maintenant, le film durera le temps qu'il doit durer. Enfin, je suis pas non plus...
Le producteur, il dira pas ça. Hein.
Non, je sais bien. Mais je pense qu'ils écouteront pas cette interview. Mais non, dans l'esprit, c'est 30 minutes.
Une petite remarque. Je suis un peu surpris d'entendre là notre auteur qui semble découvrir son texte pour la première fois. Et moi, j'ai envie de dire, mais c'est quand même la moindre des choses de lire au moins soi-même son propre texte à haute voix, à haute et intelligible voix. Donc ça m'intrigue un petit peu. Et puis, je pense que quand on écrit un petit peu des histoires, on a envie d'en faire profiter son entourage, ne serait-ce que pour avoir des premiers retours. Donc je suis un peu surpris, là.
Oui, mais
tu vois,
bon. Oui, mais parce que tu n'as pas assisté à la lecture.
Certes.
Et je pense que ce qu'a dit Pablo Durie, c'est que c'est la première fois qu'il l'entendait comme ça.
Et avec le public.
Avec une incarnation, parce que moi, j'ai vécu cette lecture et je peux te dire que c'était éblouissant. Enfin, on a été emmené dans une histoire. Et je pense que Pablo Durie, même si c'est sa mère ou son oncle qui a lu l'histoire, ils ne l'ont jamais lu comme ça. Ça, c'est évident.
De toute façon, les talents à Adami, c'est évident qu'ils lisent à la perfection. Ils interprètent un texte au cordeau. Il n'y a vraiment aucun doute. Donc, effectivement, ça va être quelque chose d'assez différent. J'y souscris bien volontiers. Ouais.
C'est pour ça que c'est vraiment passionnant d'écouter ces auteurs. Ils sont vraiment... eux, ils y croient, ils sont pleins d'énergie, ils sont complètement dans leur projet. On va le voir, là, c'est encore le cas avec cette dernière interview, celle de Louise Groux.
Louise Groux, c'est elle qui a écrit le scénario de Bien Mignonne ?
Oui, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup depuis longtemps. On pourrait dire qu'elle a contracté le virus de l'écriture au point de très tôt avoir voulu en faire son métier. Et... elle a rédigé un scénario qui est vraiment, vraiment très beau. Mais je propose qu'on l'écoute maintenant. Tout d'abord, Louise Groux, qui êtes-vous ? D'où vous venez ?
Alors, je viens de Normandie, où j'ai grandi. Et ensuite, je me suis assez tôt intéressée à l'écriture. Enfin, avant de m'intéresser vraiment au cinéma, j'ai commencé par beaucoup, beaucoup écrire quand j'étais à l'école, pendant toute ma scolarité. Et puis, je savais en tout cas que j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec l'écriture. Enfin, voilà, j'avais un peu le fantasme d'être écrivain quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé à lire, avant de voir des films, je lisais déjà énormément. Et puis progressivement, j'ai découvert le cinéma au lycée et j'ai appris qu'on pouvait aussi écrire pour le cinéma. Et c'est là que ça s'est précisé que je me suis dit que j'allais me former au métier de scénariste. Donc j'ai fait une prépa à Nantes qui s'appelle la Cinésup, qui est vraiment une très très bonne prépa où j'ai rencontré plein de super jeunes comme moi à l'époque. On avait tous 18 ans, on était tous animés un peu par le même désir de faire des choses, de faire des films. Et puis après, les études ont continué et j'ai finalement intégré la FEMIS en scénario, où j'ai vraiment commencé à écrire, voilà, à me familiariser avec l'écriture de scénario à proprement parler.
Bien mignonne, ça parle de quoi ?
Alors, Bien mignonne, c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui, à chaque vacances, on comprend, retrouve ses grands-parents à la campagne, et puis à l'occasion aussi son ami d'enfance qui s'appelle Victor, avec qui elle a un peu vécu toutes les premières fois, enfin l'amitié, tout ça, et puis c'est aussi un début d'émoi amoureux, mais qui ne dit pas encore son nom, parce que, voilà, à 8 ans, tout ça est encore un peu flou. Et ce rapport-là est perturbé par l'arrivée, lors de vacances, du demi-frère, entre guillemets, de Victor, qui est en fait le fils du nouveau compagnon de la mère de Victor, qui vient complètement perturber cette amitié-là, parce que d'un coup, il décide que comme Jade est une fille, en gros, elle n'a rien à faire avec eux. Et donc c'est un peu la première fois que cet enfant, Jade en tout cas, cette jeune fille, expérimente ce sentiment d'injustice, la violence des autres à son égard aussi, un peu les stéréotypes de genre dans lesquels elle est enfermée et qui sont aussi bien véhiculés par ce jeune garçon qui, on le comprendra plus tard, est lui-même prisonnier aussi dans un rapport au monde qui n'est pas forcément très joyeux par sa provenance et par ses grands-parents aussi, qui la considère comme une petite fille bien mignonne qui doit être gentille avec les autres. Enfin, voilà.
Mais à l'écoute de la lecture, qui était vraiment une très très belle lecture, je me suis posé la question, ce scénario, il serait destiné à quel public ?
Eh ben, moi, je l'espère à tout le monde, en fait. Enfin, disons que que ça puisse à la fois être vu par des adultes dans un rapport, que ça puisse aussi rappeler des sentiments de l'enfance et puis peut-être aussi se poser des questions sur la manière qu'on a en tant qu'adulte de traiter l'enfance et parfois de pas forcément écouter des choses parce qu'on estime que, quand on est enfant, on ne se rend pas forcément compte de la manière dont le monde tourne et que du coup, on ne va pas forcément octroyer la bonne place.
Parce que moi, quand j'ai écouté cette lecture, je me suis dit, tiens, c'est à la fois, je voyais effectivement une proposition destinée à du jeune public, parce que ça me semble, alors ça pourrait sembler ardu au niveau des strates de lecture, puisqu'on aborde plusieurs niveaux, mais je me disais que le climat de l'enfance était plutôt bien retranscrit et qu'un enfant pourrait facilement s'identifier aux personnages qui sont proposés.
Ah oui, ça je l'espère vraiment. J'ai pas envie de faire un film pour les enfants et non plus de faire un film pour les adultes qui parleraient de manière un peu cynique de l'enfance, quoi. C'est vraiment ça, je pense, qui m'intéresse en général, quoi. Dans l'écriture aussi, de réussir à viser le plus amplement possible. Parce que vous dites sur les différentes strates, je pense que les adultes peuvent aussi très bien se reconnaître.
Est-ce que c'est pas ingrat, le travail de scénariste, d'écrire en se disant que quelqu'un d'autre va se saisir de votre travail pour peut-être d'ailleurs le transformer complètement?
Alors, dans ce cas-là, ce projet-là, je veux aussi moi-même le réaliser. Du coup, la question ne se pose pas spécialement. Mais dans les cas de collaboration et de coécriture, justement, ça libère aussi quelque chose. Moi, j'aime beaucoup la coécriture quand ce n'est pas mes projets, parce que d'un coup, peut-être on se censure moins, peut-être qu'on se pose moins de questions et que d'un coup les solutions nous apparaissent beaucoup plus clairement parce qu'on ne passe pas forcément par les mêmes questionnements tortueux. Il y a quelque chose d'assez qui est assez, beaucoup plus ludique dans l'écriture, j'ai l'impression, en tant que co-auteur.
Parce que logiquement, imaginons que la chance soit avec vous, que le public vote majoritairement pour vous, ça veut dire que France 2 produirait la réalisation, mais sans doute France 2 aurait des réalisateurs à mettre sur ce projet.
Alors, a priori, c'est pas le cas pour ce projet-là particulièrement, parce que c'est vraiment les réalisateurs, aussi scénaristes, qui ont présenté leur projet. Et avec la productrice, on a déjà eu une aide de région, où je suis vraiment aussi, je le porte en tant que réalisatrice. Donc ça oui. Après, ce projet-là, comme il vient aussi un peu de souvenirs de mon enfance aussi, et que c'est vraiment en plus ancré dans un lieu dans lequel j'ai vécu, c'est vrai que là, j'aurais du mal à le lâcher à quelqu'un. Ça m'arrive. Là, par exemple, j'écris aussi un long métrage que j'ai pas vocation à réaliser. Et pour le coup, ça me fait pas. J'ai pas du tout d'amertume à l'idée de m'en débarrasser à un moment donné. Et même, j'ai hâte de voir ce que quelqu'un d'autre pourra en faire.
Et quand on écrit, est-ce que
on a des images de réalisation. Est-ce que en même temps qu'on écrit, est-ce qu'on filme? Par exemple, là, vous dites, finalement, moi, je serais amené à réaliser ce film. Ça veut dire que, est-ce que dans le geste d'écrire, il y a aussi les images qui se fabriquent?
Bien sûr, bah, de toute façon, c'est pour ça que l'écriture de scénario est... Enfin, la spécificité, c'est presque ça. Enfin, c'est ça, c'est que tout ce qui est écrit peut aussi potentiellement être montré. Enfin, en fait, c'est censé être un peu des images, voire des plans. Et que souvent, bah, quand j'écris un scénario, en tout cas, j'ai déjà un peu l'idée du montage en tête, quoi. C'est le moment où la phrase va s'arrêter suggère, par exemple, un plan qui sera peut-être plus rapproché ou qui sera un peu plus large. Enfin, si j'écris un scénario et que je sens pas l'image ou que j'arrive à, ou qu'il y a aucune, enfin, que ça ne produit rien, c'est souvent mauvais signe. Ça veut dire que c'est pas la bonne phrase, c'est pas la bonne scène, et que c'est pas la bonne. Ouais.
Merci à Louise Roux pour cette interview. Pour moi, bien mignonne, c'est le scénario de cours que j'ai préféré. Il traite la question de l'enfance, mais il la traite de façon très juste et sans complaisance. Les personnages existent réellement sans cette bienveillance sucrée que l'on retrouve souvent dans les fictions qui abordent ce thème. Et surtout, elle a su mettre l'émotion au bon endroit et sans insister.
Merci Luc. Le temps file et défile dans cette émission L'oreille curieuse et entre les pages croisées consacrée au festival Premier Plan. Albert, tu avais envie de réagir sur ce qu'on a entendu précédemment?
Oui, au niveau de la mise en image. Pour moi, lorsqu'on écrit une histoire, il me semble à peu près impossible de ne pas commencer par l'image mentale pour arriver à une traduction par écrit, il me semble. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment. En tout cas, pour ma part, lorsque j'écris une fiction, je commence toujours par avoir des images dans la tête avant de les retraduire par écrit.
Tu veux dire qu'on met des mots différents, mais peut-être que c'est un travail un peu parallèle ou simultané?
Ouais, je pense.
Oui, moi, pour avoir rencontré et pour interroger beaucoup d'auteurs là, c'est quand je pense à Alexandre Seurat ou à Frédéric Germano, moi, je pense qu'ils partent pas d'image, ils partent d'émotion. Ouais. Voilà. Et avant de. Et c'est l'émotion qui guide le geste d'écrire.
Donc, il n'y a pas d'école. Eh ben, c'est tant mieux.
Albert, c'est une grande révélation.
Nous, on est pour la liberté, pour que chacun soit dans son geste créatif heureux.
Bravo.
C'est beau, ça.
Merci. Une dernière info, un dernier conseil. On a peut-être quelques secondes seulement.
Alors, moi, j'aurais un conseil, et je le dis à tous ceux qui peuvent aller encore au festival. Je pense qu'il y a encore au moins une projection. Il y a la projection du film « Des hommes » de Alice Audio et de Jean-Robert Vialet, tous deux prix Albert Londres. C'est vraiment un documentaire sur la prison des Baumettes. Moi, je suis sorti...
Marche
de là.
À Londres.
Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et quand on sort de là, on est violemment choqué et ça fait un bien immense. Et vraiment, c'est le film du festival que je recommande.
De toute façon, allez voir des films.
Même au hasard, c'est aussi la grande force de Premier
Totalement,
Plan, c'est la curiosité.
C'est la curiosité, et c'est pas l'oreille curieuse qu'on dira le contraire.
Merci Albert. Et l'autre coup de cœur que plein de gens m'ont soufflé, c'est un court-métrage, un film d'école, Clean With Me After Dark. C'est inspiré de tutoriels de ménage vus sur YouTube.
Ouais, ça moi, paraît j'ignorais, improbable. J'ignorais totalement qu'on pouvait faire des tutos sur le ménage, mais force est de constater que c'est possible. Et ça va très très loin parce que ça va bien au-delà du tuto.
Et tout le monde dit c'est incroyable. C'est un film de Gabrielle Stemmer, donc jeune réalisatrice. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission crossover, l'oreille curieuse entre les pages.
Merci pour l'invitation.
Luc et Albert, on vous retrouve le mercredi à 17h.
C'est probable.
C'est probable.
Mais en alternance.
En alternance. Soit dans Entre les pages, soit dans On est là pour voir le défilé.
On s'est vu une fois là, c'est bon. Hein.
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide pour cette émission.
Merci
c'est vous
à
qui
toi.
Avez tout fait.
Merci à toi.
Nous, on se retrouve demain à l'antenne dans l'oreille curieuse qui sera cette fois-ci en fusion avec Radio Campus Angers et leur quotidienne Le Sous-Marin. Ce sera aussi super. Et si vous voulez assister à l'enregistrement, c'est entre 15h et 16h au Centre des Congrès à Angers. Passez une bonne soirée, un bon festival Premier Plan si vous le faites, et sinon simplement ce que vous faites. À demain.
Radio G 101.5 FM.